Alors, salutations à tous. Nous continuons le chapitre 7 du Bodhicharyavatara sur la diligence. Et nous en sommes maintenant à la stance 44 de ce chapitre. D'abord, je vais la lire en anglais, et puis ensuite je vais la lire en tibétain. Et ensuite, j'essaierai de l'expliquer un peu. Et nous en sommes donc à la discussion sur les quatre forces. Et la première de ces quatre forces, c'est la force de l'aspiration. Donc c'est comment développer une bonne aspiration à nous transformer nous-mêmes. Et on a un peu parlé de l'aspect négatif, des inconvénients, du mal dans lequel nous tombons si nous commettons des actions négatives. Et ici, ça va parler des bons résultats que nous pouvons obtenir si nous faisons des actions positives. Et donc, ici, en anglais, enfin en français plutôt, la stance 44 dit la chose suivante. Former au cœur des grands lotus parfumés et frais, développant leur corps brillant par l'aliment que leur donne la parole harmonieuse du vainqueur, les bodhisattvas, grâce à leurs bonnes œuvres, sortent enfin des calices épanouis aux rayons du Bouddha et naissent sous ses yeux, dans leur parfaite beauté. Et donc, en tibétain, ça se dit de la façon suivante.
Jiaxi Zhizang Silvi Bimi Yimburni Jialui Sunyan Xieji Zhiji Xieji Ba Tu Jiji Bimali Zhu Lunchu Jin Jalvindini Dekhisis Gevaranjir.
Donc, ce que le texte veut dire ici, c'est que si nous pratiquons de façon positive, si nous vivons de façon positive, si nous pratiquons le dharma, alors nous pourrons prendre naissance dans la terre pure d'un Bouddha. Et c'est ça que cette stance décrit. Donc en fait, le début de la stance donc là, Rinpoche réfléchit. Donc, quand on dit qu'on va être dans le cœur d'un grand lotus parfumé et frais, donc en fait, le grand, en tibétain, il veut surtout dire spacieux. Et Rinpoche explique que quand on est dans un monde humain, quand on prend naissance dans un monde humain, même si le monde humain est considéré comme l'un des meilleurs, pour prendre naissance dans ce monde humain, nous devons passer 9, voire presque 10 mois dans l'utérus maternel. Et cet utérus, il n'est pas du tout spacieux, il est même tout petit, on est très confiné. Alors que là, donc les lotus, ils sont grands par opposition, en fait, hein, à l'utérus maternel. Et puis, on dit qu'ils sont parfumés. Parce que dans cette terre pure, on prend naissance dans un lotus, et cette fleur de lotus dans laquelle nous sommes conçus, elle est très spacieuse, et on dit qu'elle est très odorante, qu'elle sent bon. Et là encore, c'est contrairement à l'utérus maternel qui sent pas toujours très bon. Donc on dit aussi que ce cœur de lotus, en plus d'être spacieux et parfumé, il sera frais, donc il sera pas trop chaud, donc on ne sera pas tout enfermé, tout confiné dans un tout petit espace qui sent pas très bon, mais on sera dans un grand espace frais et qui sent bon. Et donc, en plus, on n'aura pas besoin de manger et de boire du sang et les restes, les déchets du corps maternel, mais on sera nourri par l'aliment que leur donne la parole harmonieuse du vainqueur. Donc c'est ça qui va nourrir donc la parole harmonieuse du vainqueur. Ça sera ça notre nourriture. Et puis, quand le moment est venu de la naissance, c'est juste une fleur de lotus qui s'ouvre et on n'aura pas besoin d'endurer la douleur et les fortes, les intenses souffrances qu'on a endurées lorsqu'on fait la naissance dans le monde humain, lorsqu'on sort du ventre de sa maman. Et donc là, on sera immédiatement devant le Bouddha, dès l'ouverture du lotus. Et donc, en plus, au moment où on naîtra ainsi, on ne sera pas un être tout faible, un bébé pas du tout développé, qui ne pourrait pas bouger, qui ne pourrait pas se lever. Non, on ne sera pas ainsi. Au contraire, on sera déjà grand, fort. Notre corps sera pleinement à maturité d'adulte. Et donc, je suis déjà devenu un bodhisattva. Et donc, je suis dans la présence du Bouddha et de beaucoup de bodhisattvas. Donc, ce que ça veut dire, tout ça, c'est que, en raison de la pratique, en raison de tous les actes positifs qu'on a accomplis, on se retrouvera dans la vie la plus merveilleuse, à tel point qu'on ne peut même pas l'imaginer maintenant, dans le monde que nous connaissons maintenant. Et ça, en un sens, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer, ne peuvent pas comprendre. Mais si on comprend, ne serait-ce qu'un peu, les conséquences de comment on devient ce qu'on devient, imaginons que nous parlions non pas des vies successives, mais juste simplement de cette vie-ci. Alors, quand on est un enfant, si nous étudions assidûment, si nous sommes un enfant bon, un bon petit garçon, une bonne petite fille, si nous agissons de façon positive, si nous écoutons les bons conseils de nos parents, de nos enseignants, et si nous menons une vie très positive, si nous apprenons toutes les choses positives et si nous y entraînons, si nous exerçons aux actions positives, alors nous allons devenir une personne bonne aussi. Nous allons devenir une personne positive. Et ça nous préparera à devenir un bon être humain qui sera un être humain respecté, respectable, un être humain qui pourra faire de très bonnes choses pour lui-même et pour les autres, et qui pourra aussi faire beaucoup de choses positives pour les autres. Ça, on peut le voir. Ce que je dis là, c'est quelque chose que tout le monde sait. Et en fait, c'est un peu pareil. Quand on parle du karma, quand on parle de s'entraîner à faire des actions positives et à faire des actions négatives, c'est la même chose. Parce que ce à quoi nous nous exerçons, eh ben c'est ça qui deviendra notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de faire. C'est ça qui formera la base de nos tendances habituelles Et donc, si nous entraînons notre esprit à être bon, compatissant, positif, patient, si nous faisons sans cesse des choses qui sont serviables, utiles, qui rendent service, si nous faisons sans cesse des choses qui sont bénéfiques, et si parallèlement nous nous abstenons de faire quoi que ce soit qui soit nuisible, qui nous abstenons de faire toutes les choses qui apporteraient des choses négatives à nous ou aux autres, alors c'est ce que nous allons devenir. Et quand nous devenons ainsi, alors c'est tout notre environnement qui devient ainsi, qui devient conforme à ça. Parce que notre environnement, il se produit, il se met en place en fonction de ce que nous sommes nous-mêmes. Si, par exemple, je suis un ivrogne, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui joue, quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses négatives, alors, immédiatement, je vais avoir autour de moi beaucoup de gens qui font la même chose. Je suis dans cette communauté. Je me manifesterai dans ce type d'entourage. Ce sera ça le type de compagnie que j'aurai autour de moi. Si je bois, alors j'aurai des amis qui boivent. Si je joue, alors j'aurai des amis qui jouent. Si je fume, alors j'aurai beaucoup d'amis fumeurs autour de moi. Beaucoup de fumeurs autour de moi. Mais si je ne bois pas, si je ne joue pas, si je ne fume pas, alors, naturellement, je serai entouré par des gens qui ne boivent pas, qui ne jouent pas, qui ne fument pas. Et donc, mon monde, mon environnement sera conforme à ce que je suis. Et donc, je pense que, dans un sens, les gens disent que le karma est quelque chose de difficile à comprendre, mais d'un autre côté, c'est pas difficile du tout. C'est au contraire même évident, ça se manifeste sans cesse. La façon dont je suis, tout ce qui est autour de moi se manifeste d'une façon conforme à ce que je suis. Bien sûr, c'est pas juste chose par chose. Je fais telle chose, alors j'aurai telle conséquence. Non, c'est plus compliqué que ça, parce que il y a tellement de causes et de conditions. Mais ce que je veux devenir dans cette vie, ou dans la vie suivante, ou dans la vie qui est encore après, quoi que je veuille devenir, il faut que je commence à le mettre en place, à m'y entraîner et à y aspirer dès maintenant. Et donc, ça, c'est très important. Quel que soit l'environnement, quelle que soit la situation dans laquelle je voudrais être, quelle que soit la situation dont j'ai envie de profiter, il faut que je développe l'aspiration à cette situation et il faut que j'essaye de vivre conformément à cette situation que je voudrais avoir. Et quand je peux faire ça, alors ça se mettra en place. Et donc si je fais des actions positives avec mon corps, ma parole, et en particulier, tout particulièrement avec mon esprit, alors j'aurai une vie positive, j'aurai une expérience positive dans le futur. Donc si c'est ça que je veux, alors il faut que je m'entraîne conformément à ça, il faut que je pratique conformément à ça. Même si certaines des choses qui sont négatives, même si certaines des choses auxquelles je m'intéresse sont négatives, si ce sont des choses qui sont nuisibles pour moi ou pour les autres, si ce ne sont pas des choses correctes, alors je ne devrais pas les faire. Je devrais m'entraîner pour ne pas les faire. Je devrais aspirer à ne pas céder à ces choses négatives et à faire des choses davantage positives. Et ça, ce sera très bon pour moi. Et ça, c'est la compréhension principale. Donc ça, c'est en bref ce que veut dire cette ostence. Et puis, quel est le résultat des actions négatives? Donc Rinpoché commence par lire le texte en tibétain. Donc ça, c'était la stance 45, qui en français dit la chose suivante. Le corps écorché par les serviteurs de la mort, le corps arrosé de cuivre fondu à la chaleur du feu, la chair lacérée par des centaines de coups de lance et d'épée enflammés, le misérable, par suite de ses fautes, tombe et retombe dans les enfers pavés de fer rouge. Et donc Rinpoché explique que ça, c'est une description du royaume des enfers. Donc c'est l'opposé des terres pures, de la terre pure d'un Bouddha, c'est le royaume des enfers. Et donc si je ne fais que des actes négatifs ou que des fortes actions négatives, c'est ça qui arrivera. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais tout ça, et c'est aussi dit à un autre endroit du Bodhisattvatara, c'est que le paradis est créé par notre esprit et l'enfer est créé par notre esprit. Et c'est pas exactement créé par notre esprit dans le sens où ce serait... dire je veux l'enfer et c'est l'enfer et je veux le paradis et hop c'est le paradis. Non, c'est pas ça. Ce que ça veut dire créer, c'est que les causes et les conditions, ma façon de penser, d'agir avec mes pensées, mes émotions, mes actions, ce que je fais, les choses auxquelles je m'exerce, c'est ça que je vais devenir. Je crée ce type d'expérience pour moi-même, comme on en a parlé au sein de cette vie. Donc, je peux facilement créer l'enfer pour moi-même, je peux facilement créer le paradis pour moi-même. Si je ne fais que être en colère, bouleversé, blessé, déstabilisé, c'est très facile de me créer un enfer. Et de la même façon, je peux également créer un paradis pour moi-même. Et donc, il est vraiment nécessaire que je réfléchisse profondément à comment je devrais agir, comment je devrais réagir. Parce qu'en fait, tout est entre mes mains. Pas dans le sens où ce que je veux va arriver dans l'instant, mais que, en fait, dans le sens où je dois m'entraîner, je dois créer les conditions pour que ça arrive. Si je le comprends, alors, alors ça fonctionnera ainsi. Et donc, en fait, donc Rinpoché conclut en lisant le début de la stance 46, qu'il lit en anglais, et en français, c'est donc pratiquons l'aspiration au bien. Et donc, il nous remercie et il s'arrête là-dessus.